crac, crac, crac.
Comment veux-tu qu'on fasse ton
crac, 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 quoi?
Crac, crac, crac. Crac l'été, c'est l'émission estivale de Radio PFM.
Pendant tout l'été, les animaux de PFM se relaient pour vous servir frais des infos sur les festivals.
Des trucs à faire près de chez vous, de la musique et des invités. C'est Crac l'été.
Crac l'été.
En direct sur PFM
99.9.
Libre et sans pub.
Du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h.
Comme quand tu t'allonges sur une chaise longue comme ça, tu fais...
Ouais.
L'été.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Crac l'été. Je ne suis pas seule aujourd'hui à l'animation, même à la co-animation, voire je ne sais pas quoi dire finalement. Je suis simplement avec Louisa pour m'accompagner durant cette demi-heure où on évoquera avec lui son projet avec l'association Brouhaha Culture, puisqu'un spectacle aura lieu donc fin août, hein, c'est ça?
Oui, fin août, du 23 au 25 août.
Et puis, on va aussi. Je vous diffuserai également une chronique Noir c'est Noir par l'animateur Guy. Et puis, on écoutera aussi un petit peu de musique, ce qui fait aussi un petit peu ton été, Louisa.
Oui.
On va peut-être commencer cette émission avec l'un de mes coups de cœur, de mes gros derniers coups de cœur que j'ai pu voir aussi en concert sur une scène parisienne. Donc, à la Boule Noire, j'ai pu voir fin. Juin, Studiant Key, qui vient de sortir un EP qui s'intitule Le Jeu. Et là, dans ces panels de jeux, il y a Je rêve.
Pourquoi je n'arrive plus à penser dans le noir? Quand j'y pense, je me fais du mal et puis j'erre dans le noir. Encore une nuit passée à compter mes erreurs. Quand j'y pense, je me fais du mal et je songe au malheur. Ma mère se lève chaque soir pour aller travailler. Et moi je rêve chaque soir de la faire voyager. Pourquoi je suis énervé? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher? Je pleure de colère, je suis contraint de le cacher. Je crains que le bonheur ne soit qu'un mythe bien caché. Mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. Je n'arrive plus à rêver de voir mes parents s'aimer. Je n'arrive plus à rêver de voir ce monde changer. De voir mes rêves comblés. De voir ma peine disparaître, de voir mes peines disparaître. Bref, bien sûr j'ai pensé à changer, mais je ne vis que du passé. Je n'ai jamais vu de corps aimé. Comment pourrais-tu me croire t'aimer? Je ne sais comment faire, je suis grabataire, enfant terre à terre. Je n'écoute que mon père, y'a que ça à faire. Pour faire des affaires, pour tromper ma vie. J'écoute, je m'humilie, pour changer aussi. Réussir ma vie, réussir une vie, réussir la vie. Mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père, de voir mon père sourire à ma mère. Mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. Dis-moi pourquoi tout a changé, hey. Dis-moi pourquoi tout sacrifier, hey. Dis-moi comment me foutre en l'air, hey. Dis-moi comment croire mes frères, hey. Dis-moi pourquoi battre le fer, hey. Dis-moi pourquoi c'est la guerre, hey. Dis-le-moi j'ai besoin d'air, hey. Dis-le-moi je cherche à plaire, hey. Dis-moi comment tout rassembler, hey. Dis-moi comment les rassembler, hey. Dis-moi comment tout sacrifier, hey. Car je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Mais je rêve, non. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de voir mon père sourire à ma mère. Mais je rêve, non. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. De voir ma mère sourire à mon père et de
je
voir
rêve
mon père,
par Studiant Key, donc qu'on peut retrouver sur le site internet www.radiopfm.com pour écouter l'interview qui avait été réalisée à l'occasion donc de la sortie de son EP 5 titres qui s'appelle Le On est toujours dans l'émission Crac l'été avec Louisa, où en fait on va un petit peu évoquer cette fois-ci un peu le spectacle que tu mets en scène avec l'association Bruyante Culture cette année, donc autour de l'après-guerre, de juste l'après-guerre à Berlebois. Peut-être en parler finalement de cette sensibilité que tu as avec la guerre.
Ah oui, alors la guerre, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la guerre ici, ça nous concerne beaucoup. Et là, c'est 1919, le début des années 20, donc l'immédiate après-guerre. Le théâtre et la guerre ont toujours été liés, en fait, depuis l'origine. Ça, c'est mon grand professeur maître Thomas Génari qui parle à travers moi. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous disent parfois « Mais pourquoi vous faites du théâtre sur la guerre ?» ou même « C'est honteux de faire du théâtre sur la guerre ?» Ben oui, mais les grandes tragédies grecques, c'était la guerre. Donc c'est les récits. Donc ça a toujours été lié, théâtre et guerre. Voilà, alors cela étant dit, maintenant c'est la paix. Simplement, 1919, c'était pas si simple, mais j'ai pas voulu rester sur une chose dramatique, donc je suis parti sur un peu comment les gens, en 1919, au moment où il fallait tout réinventer, pouvaient imaginer leur futur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes les grandes innovations de l'entre-deux-guerres, des années 20, et ce qu'on va appeler les années folles, avaient été amorcées dès la Belle Époque. En art, il y avait le surréalisme et le cubisme, il y a la mécanisation, et tout ça a été repris à partir de la Reconstruction. Donc comment, avec même les enfants de l'époque, voyant l'arrivée des tout premières machines mécanique dans les champs, comment ils pouvaient rêver un futur, en fait. Donc souvent, quand j'en parle aux gens d'aujourd'hui ou aux enfants d'aujourd'hui, on me dit tout de suite « Ah bah, les fusées pour aller dans l'espace, les ordinateurs ». Alors je dis « Mais non, pas à l'époque, justement ».
Mais c'était en construction, quand même.
Ouais, c'était... Alors par exemple, pour eux, c'était les avions. Mais les avions, à l'époque, c'était du bois et de la toile. Mais ils pouvaient imaginer des choses. Il y avait... Voilà, ils imaginaient forcément le futur et même d'aller dans l'espace, mais pas forcément comme nous, aujourd'hui, on l'imagine.
Oui, puisque nous, finalement, par rapport à l'époque, on y a été.
Ben oui, pour nous, c'est passé. Alors moi, j'appelle ça du rétro-futur. Parce qu'on se remet dans le contexte en imaginant le futur, mais dans le passé. Donc, et finalement, ce spectacle, c'est une fantasmagorie, c'est-à-dire que c'est pas de l'histoire, c'est pas ce qui s'est passé réellement en 19. Mais alors, je me suis appuyé sur des auteurs, un auteur français qui s'appelle Alphonse Allais, qui était très fantaisiste et qui écrivait des articles surréalistes pour expliquer qu'un jour, il y aurait plus de pétrole pour les voitures et qu'il faudrait inventer des énergies renouvelables. Et c'était au moment des premières voitures, ça c'est incroyable. Et puis un autre auteur, Karl Valentin, qui a fait des sketchs burlesques sur la folie du quotidien. Le premier téléphone, bah déjà, il imaginait les dérives au téléphone. Enfin, c'est... Voilà.
Parce que, pour parler finalement un peu de l'histoire, on peut se dire aussi qu'à l'époque, c'était aussi juste avant que la guerre éclate, il y avait aussi le développement de l'électricité dans toutes les chaumières, si on peut dire ça comme ceci. Et aujourd'hui, on a aussi ça avec le développement aussi de l'Internet.
Oui, c'est une révolution un peu similaire aujourd'hui qu'on vit. Hein. C'est un changement de société absolu. Il y a des parallèles à faire avec aujourd'hui, forcément. Et puis, à travers tout ça, il y a la nature humaine qui reste la même. Depuis l'Antiquité grecque, on se moque des hommes sur les mêmes travers à l'époque qu'aujourd'hui. Donc forcément, ça parle encore, le côté burlesque sur l'avarice, la jalousie entre les gens. Voilà, des choses qui sont de tout temps.
Donc le choix du lieu a été stratégique, si je peux dire ça comme ça aussi, par rapport à cette après-guerre.
Oui,
donc village qui est juste à la frontière des premières lignes ennemies, si je peux dire ça comme ça.
Oui, et c'est un café de la Reconstruction à Berlebois, c'est l'ancien café communal. Il est encore en état, alors évidemment, il y a eu des travaux depuis, mais il y a encore les vieux carrelages, il y a des choses comme ça d'époque, des vieilles portes en bois vitré, par exemple, qui restent. Et nous, ce qui est super, c'est que c'est un lieu complètement vide. Alors malheureusement, à terme, ça va changer de destination parce que ça ne marche plus en tant que café. Mais en tout cas, pour nous, là, il est dans son jus et on va jouer avec une salle de café, une arrière-salle dont on va faire un petit théâtre. Voilà, il y a la cour aussi avec laquelle on va jouer. Et la salle des fêtes est juste à côté, donc on accueillera les gens probablement dans la salle des fêtes.
Donc peut-être avant d'écouter un petit peu de musique, est-ce que tu t'es aussi beaucoup documenté sur ce qui s'est passé sur place ou bien même ailleurs aussi pour finalement créer un théâtre juste au bord de la ligne de front comme pouvait avoir lieu à l'époque il y a 100 ans?
Alors, j'ai un rendez-vous téléphonique avec Michel Petit, qui est le maire de Berlebois et qui est aussi conseiller départemental, et qui va me donner de la documentation et me donner les faits principaux du village à ce moment-là. Parce que, ouais, il y a toute une dimension. Donc, je connais un petit peu globalement les événements, mais au-delà de ça, je ne suis pas historien non plus. Je m'y intéresse, mais. Et je veux rester en plus aussi libre dans ma tête pour inventer des choses et me détacher de la réalité quand même. Mais je sais les choses principales et je m'intéresse à cette histoire du village. Et on va exposer les documents qu'il y a sur le café à l'époque, par exemple.
Voilà. Et est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est une sorte de spectacle historique ou il y a toujours un petit peu de fiction ?
Ah, il y a beaucoup de fiction, il n'y a jamais de contre-vérité historique, mais on n'est pas là pour restituer. De toute façon, on va faire quelque chose, ça s'appelle la folle époque. Donc, ce n'est pas les années folles uniquement, ce n'est pas que du bling-bling, mais c'est quand même burlesque, fantaisiste. Alors qu'en 1919, pour les gens, le quotidien, ce n'était pas encore ça du tout. Et d'ailleurs, en plus, les années folles, c'était pas pareil dans la capitale à Paris que dans les villages. Mais moi, je fais une chose fantasmée avec cette notion de façon d'imaginaire qui est importante, puisque c'est comment des gens de l'époque imaginaient eux-mêmes les choses. Donc on peut tous se permettre d'imaginer, mais ne pas dire de contre-vérité historique, ça c'est important.
Bye.
entendait le titre Svanour par Fejka. Donc c'est un premier extrait qui est tiré du prochain album qui s'intitule Réunion, et on pourra retrouver Jafka donc le 26 novembre sur la scène de l'Élysée Montmartre à Paris. On parlait finalement off que tu vois, si tu retournes un petit peu à l'électro du coup.
Ah oui, j'ai découvert, je suis comme le chanteur Christophe, il avait dit je trouve des nouveautés 10 ans après et moi c'est beaucoup plus loin. J'ai découvert Space Art, qui est un groupe des années 70.
C'est ce qu'on écoute juste derrière.
Je trouve ça inventif et en même temps ça me plonge dans les sonorités de mon enfance. Je crois que c'est ça qui me... Et voilà, donc du coup... Parce que c'est de l'électro, mais qui, je sais pas, ça raconte presque des histoires, je trouve.
On peut écouter un petit extrait.
Ah ouais?
C'est un extrait de 77, donc Space Art et le titre Onyx. On est toujours dans l'émission Craque l'été avec toi Louisa, où finalement on explore pas mal de périodes hein, finalement.
Ouais, tu sais que ça me fait penser, j'ai dans leur album là d'où c'est extrait, ils avaient repris la 5e symphonie de Beethoven, ils avaient fait une émission justement où j'étais venu sur les reprises
donc,
après coup, tu vois.
Donc émission qu'on peut retrouver sur le site internet www.radiopfm.com. Donc c'était avec notre bon ami Jean-Luc. On poursuit cette émission Craque l'été, peut-être avec une autre coupure, avant de revenir sur ton actualité et puis sur le spectacle que tu proposes fin août à Merlebois. Là, notre coupure avec une chronique littéraire avec Guy qui nous propose une chronique Noir c'est noir.
Un takawan est un saumon qui revient pour la première fois de la mer dans sa rivière d'origine. Takawan, c'est aussi le nom Mi'kmaq de William. William est un Indien, un Amérindien qui vit seul, en dehors, mais à proximité de la réserve indienne Mi'kmaq, située entre la rivière Ristigouche et la baie des Chaleurs sur la côte est du Canada. Il y a le Québec et le reste du Canada, la réserve et le reste du monde, écrit Éric Plamondon dans ce roman intitulé, vous l'aurez deviné, Takawan. 10 générations plus tôt, précise-t-il, ils étaient partout dans la péninsule gaspésienne. 10 000 ans plus tôt, ils s'étaient installés ici à la fin des terres, Gaspec. Ce sont les Mi'kmaq, les premiers Français les appelaient les Souriquois. Voilà, les présentations sont faites. Retour au Mi'kmaq William. Nous sommes en juin 1981. Au milieu des bois, un wigwam en écorce de bouleau s'élève au beau milieu d'une clairière. Une fumée blanche monte d'un cercle de cailloux. Un homme penché au-dessus de ce foyer tourne la tête à l'arrivée de Leclerc qui descend, s'avance et pose la main sur son cœur en guise de salutation. Cet homme qui tourne la tête, c'est William, un homme aux cheveux longs et noirs, au visage dur, la soixantaine. William n'est pas surpris par l'arrivée de Leclerc. Ça fait un bon moment qu'il entend son 4x4. Il se demande juste ce qui l'amène. Leclerc lui parle des 2 descentes qui viennent de se produire sur la réserve, de sa démission et de la fille trouvée à Matapédia. Ce sont ces événements que Plamondon va entrelacer tout au long de son roman. Leclerc, lui aussi, habite seul dans les bois, mais ce n'est pas un Indien, il est garde-chasse. Il l'était, puisqu'il a démissionné après la première descente dans la réserve à laquelle il a participé. Avec des agents de la protection de la faune, il est arrivé sur la réserve en même temps que 300 policiers. Quand il a vu les matraques, les autobus, les gyrophares et les employés du ministère, il a compris qu'il était en train de participer à quelque chose de pas bien beau. Et effectivement, cette première incursion dans la réserve, pour une histoire de quota de pêche de saumon que ne respectent pas les Indiens, Cette première incursion s'est terminée en une humiliation collective pour un peuple qui a toujours pêché le saumon avec sagesse. Si on pêche trop de poissons pendant cette année, il y en aura moins l'année prochaine. Si on pêche trop de poissons pendant des années, un jour, il n'y en aura plus. Et puis donc, cette fille est trouvée par Leclerc, une jeune indienne en état de choc. Elle a subi la loi de trois hommes forts de leur uniforme. Et elle a maintenant besoin de William pour s'apaiser et pour se défendre. Takawan de Éric Plamondon, quidam éditeur, et le livre de poche, une grande efficacité d'écriture pour un roman qui, autour de cette jeune indienne victime de prédateurs sexuels, aborde de sacrées questions de société, notamment celle de nos relations aux peuples autochtones, tout comme celle de la sauvegarde de la biodiversité. Bref, l'être humain et sa planète en littérature. Pas étonnant que Plamondon fasse sortir du sac de classe d'une lycéenne Micmac un recueil de nouvelles de Jack London. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus noircées noires.
C'était donc une chronique Noir c'est Noir par Guy. Donc on est toujours dans l'émission Crac l'été, animée par Honorine. Et puis j'ai en invité Louisard. Louisard, t'as peut-être un bouquin entre deux répétitions et puis entre l'organisation d'un spectacle fin août. Est-ce que t'as le temps un peu de lire ou ce genre de choses?
Un bouquin, je suis en train de lire un truc. Alors attends, que j'ai trouvé dans une gare sur la... sur le... Ah, pas le lâcher prise, mais comment on dit quand on... pour le... Il aimerait pas l'auteur, je dis ça, pour le bien-être, tu sais, la... c'est pas la philosophie, c'est la méditation.
Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça marche. Et,
c'est foutez-vous la paix.
Ah oui, d'accord.
Et c'est assez... c'est bien, ces petits principes comme ça. Et un bouquin, Aïe mes aïeux, que je trouve passionnant, sur les choses qui se transmettent, on parlait de la guerre tout à l'heure, qui se transmettent inconsciemment de génération en génération, et des actes de certaines personnes d'aujourd'hui qu'on ne comprend pas ou qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes, et en fait qui s'expliquent par des choses inconscientes, parce que leurs grands-parents ont vécu telle chose, ou leurs parents. Moi j'y crois parce que l'être humain il se forme en transmettant les choses, on apprend tout quand on est humain. Contrairement aux animaux, on a moins d'instincts, on en a quelques-uns, mais moins. Et donc, je crois à cette chose inconsciente qui peut se transmettre aussi, quoi. Donc,
et puis, justement, il y avait aussi un documentaire sur Arte qui, à un moment donné, parlait de ce sujet. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, si on fait quelques recherches sur le site d'Arte TV, on pourra retrouver le lien d'un document qui parle de cette transmission, on va dire, inconsciente des actes de nos ancêtres. Bah, pour continuer finalement sur cette transmission, tu prépares un spectacle dont tu mets en scène et puis dont ta compagnie Techné est co-organisatrice finalement avec l'association Brun de Culture. Donc il y a toujours cette mobilisation de personnes un petit peu satellites qui vient vous aider pour la confection de ce spectacle.
Ah, satellite, c'est bien pour le rétro-futur. En fait, c'est un spectacle qui vient à la suite d'une action sur toute l'année, puisqu'on travaille toute l'année, je travaille avec des amateurs, comédiens amateurs, avec un encadrement pro au niveau de la technique, de la mise en scène, mais on a aussi mobilisé les centres aérés, par exemple, depuis juillet et août, tous les centres aérés du territoire ont fait des portraits d'habitants du futur, qui seront dans le décor du spectacle, par exemple. Voilà. Et là, on est en train... Alors, il y a eu des performances aussi, des performances artistiques de Techné dans des écoles, à la Marpa. Donc, ça, c'est nouveau, ça. C'est la Com de Com a décidé de prendre en complément du spectacle de l'été une action de Techné. Donc c'est bien, on est content.
Donc qui est en lien, enfin qui est un parallèle aussi avec ce que la compagnie fait sur le Sud Artois.
Alors du coup, ben oui, c'est un petit peu effectivement, c'est le principe qu'on a développé sur le Sud Artois. Donc c'est évidemment pas exactement la même chose, mais par exemple, je suis allé à la Marpa et j'ai enregistré des témoignages de personnes âgées qui m'ont raconté de leurs parents ou d'elles-mêmes l'arrivée du progrès, la première machine à laver, la première télé dans une maison, la voiture. Et j'ai fait faire un montage sonore par Timothée Couteau et on va diffuser les témoignages, une partie des témoignages dans le spectacle par exemple. Voilà.
Donc c'est aussi une forme qui t'intéresse aussi de mettre du son ou de la vidéo aussi dans les spectacles, peut-être de plus en plus, ou finalement c'est aussi des choses que tu as toujours fait et puis que tu aimes bien ça aussi.
Ben, la musique, oui, forcément, parce que moi, je suis chanteur moi-même, donc ça... Après, la vidéo, je l'ai fait, ça, mais c'est pas systématique. Là, il n'y en a pas, par exemple, et dans la dernière création de Techné en juin, il n'y avait pas de vidéo non plus, parce que pour moi, dans ce cas-là, c'est des outils pour le théâtre. Je ne traite pas ça comme un vidéaste, donc voilà. Mais c'est comme une palette, c'est des choses que je peux exploiter, donc je fais appel à des personnes compétentes dans ce cas-là pour le faire au maximum. Parce que...
Alors peut-être, dernière question, un point sur les costumes aussi, sur l'importance des costumes qui représentent un petit peu l'époque aussi.
Oui, ben le fait de travailler avec des amateurs, il y a un aspect pédagogique, parce que ce que je leur explique, c'est qu'un costume n'est pas un déguisement, c'est pas pour être beau non plus, il faut que ce soit signifiant. Et là, je leur ai proposé de partir de costumes belle époque, et il y a des choses même de l'époque qu'on a retrouvées, des robes, des manteaux, et de les transformer, de les augmenter façon année folle. Donc il y a une dame qui va avoir une chaussure sur son chapeau, parce qu'elle n'avait plus qu'une seule chaussure, donc pour aller au théâtre, elle se met sa chaussure sur son chapeau, par exemple. Ou alors il y a une robe façon tableau cubiste, donc voilà. Et c'est à la fois drôle, l'image c'est important pour les gens, mais encore une fois, pour moi, le théâtre c'est comme un tableau en trois dimensions, c'est-à-dire que chaque élément de costume a un sens. C'est pas juste pour faire joli. Voilà. Un déplacement, ça a un sens aussi. Voilà.
Alors peut-être info pratique, où est-ce qu'on peut se documenter pour assister au spectacle voilà.
Bah, il y a déjà un numéro de réservation. Je peux le donner.
Bah oui,
donner.
Vas-y.
07 82 10 88 26. Il y a un site maintenant aussi, Théâtre au Vert. De mémoire, c'est théâtreauvert.com. Et où il y a les archives des années précédentes et on annonce le nouveau spectacle. Voilà, donc puis il y a des flyers qui circulent un peu.
Alors on termine peut-être tranquillement cette émission avec un extrait d'un de tes tubes, on va dire de l'année, même si c'est quelque chose qui est un peu vieux.
C'est 2014 en fait, mais moi j'écoute des choses d'aujourd'hui aussi. Mais c'est un morceau qui s'appelle Showbox, pardon pour mon anglais, et c'est Guillaume Perret avec The Electric Epic. Et c'est un saxophoniste compositeur que je trouve génial, tout simplement, et qui tourne en ce moment, qui sera encore à la rentrée en concert. Alors c'est plutôt, même peut-être en Suisse, et il est international, mais voilà, moi je trouve ça super.
Et donc tu as pu déjà le voir ou pas forcément?
Je ne l'ai pas vu en concert, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté surtout les morceaux, et ça m'inspire énormément, ça donne, je trouve, une énergie, voilà, c'est...
Alors donc on pourra le retrouver non pas à Paris mais à Romans-sur-Isère, et donc ça sera le 10 août au domaine de quel nom?
Oui, je sais plus le nom.
Bon, découvrons l'artiste, en tout cas de façon auditive.